Eh bien aujourd'hui, comme le salon de l'agriculture bat son plein, nous avons choisi un documentaire en lien avec ce salon. Parmi ces quatre univers, élevage, culture, produits gastronomiques, métiers de l'agriculture, c'est celui des métiers de la sylviculture que Véronique Macari a choisi. Nous allons suivre ceux qu'on appelle les cueilleurs-récolteurs. Ils grimpent dans les arbres pour ramasser des graines.
Pour reconstituer les forêts dévastées après les tempêtes.
Oui, et aussi pour fournir des semenciers, accompagner le travail de l'ONF ou encore pour des propriétaires privés. Nous partons pour le verger de Saint-Augustin. Dans les Landes, il y a une bande de récolteurs réunis autour de Rémi Carité, qui, non content de récolter les graines d'arbres, est aussi l'auteur des Vertiges de la forêt, petite déclaration aux mousses, aux fougères et aux arbres qui les ombragent. En août, l'équipe ira dans les Pyrénées, à l'automne dans les Vosges et le Jura, sauf Bernard qui, après 35 ans de récolte, va raccrocher ses gants et rentrer son fourgon.
Alors le baudrier, il était neuf quand il est sorti du magasin. Et une heure après, il était dans cet état.
Une bande de cueilleurs, récolteurs. Un documentaire de Véronique Macari et Vincent Deck.
Donc ça, c'est l'arbre que j'ai grimpé hier soir, le dernier. Hein. Il y a ma corde qui est encore en haut. Je vais la faire tomber. Alors elle devrait tomber à peu près devant nous. Alors attention aux branches qui tombent, hein, parce que je vais... déplacer l'échelle, je ne sais pas où je vais aller, je vais faire celui-là peut-être.
Les bois et forêts recouvrent 30% de la France métropolitaine. C'est l'occupation du sol la plus importante après l'agriculture. Derrière ces forêts, une poignée d'hommes exercent un métier peu connu, les cueilleurs. Ils récoltent les graines des arbres forestiers pour alimenter les pépiniéristes. En 30 ans, le métier a changé. La forêt subit les conséquences du réchauffement climatique et de la loi du marché. Mais les gestes des cueilleurs restent les mêmes. Plongés dans un univers qui marie effort physique, tête en l'air et solidarité. Nous sommes perchés au sommet des pins maritimes.
Je suis arrivé en haut, je me suis attaché. Première chose à faire, je sors ma gaffe, tire les branches avec des cônes, je les décroche. Là-bas, hop.
Ici, nous sommes sur le verger à graines de Saint-Augustin, proche de la mer, juste à côté de Royan, voilà, dans les Charentes-Maritimes. Je suis Pierre-Louis Luquette de la société Villemorin, et plus particulièrement du service semences d'arbres.
Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui ?
On récolte les cônes de pin maritime, donc verger à graines de pin maritime, production semences forestières. Voilà.
Les cônes, c'est les pommes de pin, en fait.
C'est les pommes de pin, exactement, qu'on appelle les pignes dans le sud-ouest.
Et qu'est-ce qu'on en fait ?
Alors on en extrait la semence pour produire des plants forestiers, donc pour la filière forêt-bois française et en grosse partie aquitaine.
Et donc vous employez le terme de verger, donc on n'est pas du tout dans une forêt en fait.
Non, c'est un verger à graines parce que les arbres ont été plantés vraiment à but production de ce qu'on appelle MFR, donc matériel forestier de reproduction. Donc ces arbres-là ont été sélectionnés pour leur rectitude, leur branchaison, la plus fine possible, et leur croissance, leur vigueur. Donc c'est les deux critères qui ont été travaillés par les scientifiques.
Et alors, là nous allons à la recherche d'une bande de cueilleurs-collecteurs. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, vous qui les connaissez bien ?
Alors, ce sont des entrepreneurs qui viennent d'un petit peu partout en France, qui travaillent pour nous depuis, pour certains, presque 30 ans. Même plus. Donc voilà, ils viennent de partout, tous les ans, pour récolter les cônes et les semences pour Villemorin.
Mais c'est un métier.
C'est un métier. Alors, c'est pas leur métier, leur activité principale. Ils sont élagueurs grimpeurs pour la plupart d'entre eux le reste de l'année. Ou au moins une activité souvent de cordiste.
Comment vous les choisissez ? Quel est le profil du grimpeur que vous cherchez ?
Motivé. Motivé. Et puis, c'est vrai que c'est une activité qui existe depuis très longtemps. Donc, certains sont là depuis longtemps, on a toujours marché avec la même équipe. Donc voilà, le renouvellement se fait vraiment petit à petit. Et c'est souvent des connaissances entre eux, voilà, c'est du bouche à oreille, on va dire.
Comme une confrérie.
Oui, presque.
Et pourquoi vous fonctionnez avec la même équipe ?
Ben, c'est un métier qui est très particulier parce que c'est pas une activité comme l'élagage ou c'est pas du bûcheronnage non plus, c'est vraiment la cueillette, c'est assez technique, c'est des déplacements en bout de branche. Voilà, ça fait, enfin, ça demande un certain niveau, un niveau technique et puis une approche aussi particulière peut-être de l'arbre.
Depuis combien de temps ils travaillent sur cette, dans ce coin ?
Donc là, ils y sont depuis une semaine, voilà, à peu près. On va essayer de trouver Rémi.
Comment vous savez ? Comment vous arrivez à la retrouver, là ?
Bon, je les ai vus ce matin, donc je sais comment ils sont habillés. Faut les repérer. Une fois dans les arbres. Ça va, Rémi ?
Juste nous dire comment vous êtes équipé ?
Ouais, baudrier, bottes, parce qu'il fait un peu humide quand même, hein. Casque, et la longe, le rappel, les échelles, et le crochet, la gaffe. Chacun se fabrique, ça c'est un outil qu'on ne trouve pas dans le commerce, alors chacun de nous bricole son crochet. Alors ça, le crochet, il sert à pousser les cônes à la cime des arbres. Les cônes de l'année sont toujours à l'extrémité des branches. Donc ça sert à les faire tomber. C'est pas très dangereux, mais quand même, aujourd'hui les arbres sont un peu glissants. Et depuis le début du chantier d'ailleurs, donc c'est vrai qu'il faut quand même être un peu attentif, quoi. Hein, nous on est vraiment dans une problématique très simple, il faut grimper, cueillir, descendre, ramasser et rentrer se coucher. Bon voilà, donc c'est vraiment des journées comme ça, c'est très linéaire, mais ça permet de... c'est une belle respiration. Sinon, combien de temps on travaille chaque année, ça dépend des années. C'est l'arbre qui décide. Il y a 10-15 ans, on avait des très grosses saisons, on faisait 4 mois. Et puis il y a eu d'autres saisons où on a fait 2 semaines, parce qu'on est tributaire aussi de la demande en sylviculture. Et on est tributaire des graines selon que les arbres ont donné des graines ou que l'année est mauvaise et qu'il n'y a rien à récolter. Là, je vais casser des branches avec le truc, tu vois, et donc il faut pas être en dessous. Donc là, je suis un peu en train de terminer la journée, je voudrais faire quelques arbres encore et puis après ramasser tout ce que j'ai mis par terre et comme ça, bon, je sais pas quelle heure il est, mais on imagine que ça sort la fin de journée un peu.
C'est vrai ?
Ouais.
Ça y est, t'as fait ton quota ou alors t'en as marre là ?
Non, c'est bien, bah j'en ai marre, oui, j'arrête quoi, c'est une bonne heure pour arrêter, je trouve. Tu veux continuer ?
Moi, c'est le quota qui m'arrête un peu, je suis...
Ah oui ?
Ouais.
Oui, de toute façon, j'ai fait ce qu'il fallait. Ouais. C'est bon, mais faut pas en abuser non plus, en fait. Hein.
Ouais, mais ça fait 30 ans que tu fais ça, quoi.
Ouais.
Moi, j'en veux un peu
j'ai
plus.
J'ai toujours fait comme ça.
Karim Beka, comment vous commencez la journée, vous ? Vous avez un rituel particulier ?
Un rituel, c'est d'arriver à partir au travail. Des fois, c'est dur. On a encore les douleurs de la veille. Et bien manger, y aller tranquillement. Donc moi je fais un peu de yoga pour m'échauffer quoi. Hein, une petite salutation au soleil, un petit bonjour, grimpe dans les arbres. Ils sont vivants hein, donc peut-être qu'il faut que je me sente bien déjà prêt à partir. Donc ouais, il faut s'échauffer. C'est un travail physique. Mais il y a plein de gars qui font rien, hein. Ils montent, ils arrivent, ils fument une clope en montée, et ils sont là-haut quoi. Et ils sont plus performants que moi souvent. Donc c'est plus arriver dans la forêt quoi, dans une ambiance. Hein. Voilà.
Et vous venez d'où Karim ?
Moi je viens du Morvan, c'est en Bourgogne.
Comment vous avez connu le métier ?
Alors ce métier-ci où donc moi j'ai fait de l'élagage, de la grimpe d'arbres, je suis éducateur de grimpe d'arbres.
Accrobranche, tout ça ?
Accrobranche, ouais. Grimpe d'arbre. Et en fait, c'est un reportage photo de Rémi Carité. Et quand j'ai vu ce bouquin, j'ai vu ces photos, je trouvais ça fantastique, quoi. Des mecs perchés dans la forêt en train de ramasser des cônes. Je pensais pas que ça se faisait, en fait, quoi. Et donc, j'ai appelé l'ONF, Ville-Morin, et j'ai insisté jusqu'à ce qu'ils m'appellent pour venir bosser. Et là, j'ai rencontré Rémi.
Votre mentor.
Voilà mon mentor. Ah mais il y a plein de mentors ici, on peut s'y retrouver. Bon, c'est une équipe assez soudée quoi. C'est des gars qui travaillent ensemble depuis 20 ans, 30 ans. Qui travaillent dans la forêt, en groupe. on passait je pense des super moments, comme des moments difficiles, donc ça soude un groupe, quoi. Mes premières impressions au départ, c'est que j'étais face à des ours, quoi. Pas tous, on sent qu'il y a des bonhommes qui sont abordables, comme Rémi, quoi. Mais il faut un certain temps pour se sentir à l'aise dans ce travail, en fait. Même simplement par rapport aux arbres qu'on grimpe. Parce que quand on travaille avec des gars qui font ça depuis 30 ans, c'est pas facile, quoi. Faut les suivre.
Et ça correspond au rêve que vous en faisiez ?
Ouais. Ouais, c'est une évolution dans le travail, quoi. Moi, j'ai commencé gamin à faire de l'horticulture. Les arbres, maintenant je grimpe dedans, je récolte les cônes, les semences. Pour régénérer, pour refaire des arbres. Après, comment les forêts sont exploitées, par exemple, il y a de plus en plus de forêts qui sont cultivées comme des champs de maïs. On les aligne, ils ont tous le même âge, il n'y a pas de biodiversité, tout ça. Donc là, on collecte des arbres qui ont été sélectionnés. Donc on est un peu dans ce système, quoi. Et on peut voir des oiseaux, plein de choses, en fait, quoi. C'est ça aussi qui peut être bien dans ce travail, quoi. C'est qu'on avait vraiment des moments de liberté intense.
Je peux vous demander combien vous avez gagné aujourd'hui ?
Bah, il faut que je termine ma cinquième jauge, donc mon deuxième hectolitre et demi. Donc combien j'ai gagné ? Bah là, en fait, on est en pleine négociation, quoi. On négocie le tarif un petit peu à la hausse parce qu'il n'y a pas beaucoup de cônes. Combien j'ai gagné ? Je sais pas, entre aux environs de 400 euros, quoi.
Mais Rémi, je peux vous demander combien vous avez fait de sacs par rapport à Karim pour savoir ?
Moi, j'ai fait 3 sacs. Mais je suis pas obsédé par les controns, en tout cas.
Moi, ça m'obsède parfois.
Ah ouais ?
Ouais.
Non, je rêve pas de cônes cette année.
Moi, je sais pas si c'est des rêves ou des cauchemars, mais. Ouais. Mais ouais, il y en a qui comptent les moutons. Moi, l'année passée, je comptais les cônes pour dormir. Je me voyais dans les arbres. Ouais, c'est n'importe quoi.
C'est normal. Ça fait ça, moi, quand je ramasse les glands. Parce que c'est tellement répétitif. On en ramasse tellement dans une journée que, effectivement, au bout de 3-4 jours. On ferme les yeux, puis on voit tapis de glands sous les chaînes, quoi. Mais là, non. Là, j'y ai échappé. Là, on a du plaisir à faire des chantiers ensemble, c'est sûr.
Ouais.
Sauf que la dernière fois, par exemple, c'était complètement foireux, hein.
Apparemment, ouais. C'était ma première, là.
On nous annonce une récolte, et puis quand on arrive sur place, y a rien à faire, quoi.
Y
a pas de grêle, ou très très peu, c'est pas récoltable, ça, voilà, quoi. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était comme ça. Sur un chantier qui a tourné les cours, hein, puisqu'on a fait l'après-midi, puis on est rentré à la maison.
On va aller voir la jauge, faire sonner la jauge.
La jauge, la fameuse jauge. Oui.
Ah,
oh,
mais
si tu ramasses
tout ça,
voilà,
c'est bon, là, c'est fini.
La déplacer par là.
Grimpeurs en France à faire ce métier.
Ils sont tous là. Hein. Si, il y a une équipe de l'ONF, ils sont 4 ou 5, voire 6. Donc on doit être. On peut devenir grimpeur assez vite. Hein. Un élagueur peut devenir grimpeur dans la semaine. Voilà, après c'est l'expérience. Mais bon, on débute chaque année. Hein. Et puis il y a beaucoup de ramassage au sol aussi. Le gland, le hêtre,
dans l'est. Le ramassage du gland.
En 4 pattes par terre. Voilà. Et là, ils embauchent des gens du coin, des gens qui veulent bien faire ça. Ils sont payés vraiment.
C'est l'heure de la pause
Je sais pas spécialement. Non,
il n'y a pas vraiment d'heure définie.
Je pensais que c'était 5h30, mais en fait, vu que j'ai attaqué à midi et demi, voilà. Il me reste encore une petite heure à faire.
Chacun arrête quand il veut ?
Ouais.
Ouais. On en a marre, on arrête.
Il n'y a pas de chef. Chacun gère son travail.
Et vous remplissez combien de sacs par jour, vous, Fabrice ?
Sur ce chantier, on va dire que je suis à peu près 5 sacs par jour. Faut essayer de pas être en dessous, pour que ça vaille le coup financièrement.
Il est 4h30, c'est pas l'heure du lion ?
Le lion, on l'entend le matin, les singes aussi, c'est rigolo ça. Ouais. Ce chantier, il est vraiment spécial pour ça. C'est qu'on arrive, de temps en temps, on voit les rugissements du lion et les singes qui rigolent. Quoi. On est à vol d'oiseau, on doit être à 500 mètres ou peut-être un peu plus du zoo. Quoi.
Et sinon, est-ce que vous avez des visites d'animaux ?
Oh oui, bah, en forêt, c'est souvent qu'on va voir sangliers, pas trop, on voit des traces. Mais les chevreuils, on en voit régulièrement. Ouais.
Et donc là, on est sur votre ligne, Fabrice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, la répartition des lignes le matin ?
Ah ben, on reprend la ligne qu'on a. Là, c'est une ligne, j'en ai pour 4 jours pour la faire. Et après, une fois que c'est fini, on prend nos affaires et on va prendre celle d'après. C'est le premier qui arrive qui pose ses échelles. Il n'y a pas de tirage au sort, il n'y a pas de... On prend comme ça vient. Mais bon, maintenant, les cueillettes, ce sont vachement... Le gros des récoltes, on va dire, c'est août, septembre, octobre. Sur les feuillus et le douglas. L'automne, tu as tout ce qui est feuillu. Et ça va finir avec le chêne et puis le hêtre aussi. Le hêtre qui est une cueillette, on va en forêt, on met des grandes bâches plastiques qui sont perforées. On les met
en
octobre et on doit les relever mi-novembre.
Ok, on vous laisse grimper.
Ah ici là. Oh, tu l'auras jamais. Là-bas, là-bas.
Là-bas.
Ouais, là, au bout, en dessous.
Attends, je vais trouver. Je vois pas pour l'instant.
La forêt d'Aquitaine a subi deux grosses tempêtes quasiment successives à 10 ans d'intervalle, mais à l'échelle d'une forêt, c'est pas grand-chose. Donc 2009 et 99. Donc on est en plein dans la reconstitution en fait d'après tempête. Donc d'où un gros besoin de semences de pin maritime.
Et la part de forêt privée, forêt publique?
Forêt privée, forêt publique, on est à peu près à 75% de forêt privée, et donc le reste en domanial, donc géré essentiellement par l'ONF.
Et qu'est-ce que vous feriez sans grimpeur-récolteur ?
Sans grimpeur-récolteur, ce serait compliqué d'aller chercher les cônes, oui. Après, il y a d'autres méthodes, on peut utiliser la nacelle, ça se fait. Bon, là, c'est des terrains un petit peu compliqués pour faire passer des engins. Sur le verger de Saint-Augustin, en tout cas.
André Sel, on va où, là? Qu'est-ce qui se passe?
Alors là, on fait le ramassage des sacs dans les lignes. Quand on a fini une ligne, et puis qu'il faut stocker sur le lieu de dépôt, on appelle ça du débardage. On fait ça avec un 4x4 Toyota, très efficace dans ce genre de terrain. Et ça se fait encore à la main. Voilà, j'ai des sacs ici.
Donc vous le faites pour tous là?
Non, on ramasse chacun ses sacs. On est toujours en individuel.
Mais après, ils sont entreposés collectivement.
Voilà, pour être embarqués dans le camion. Avant, ils sont plombés. Et on comptabilise tout ça sur un tableau pour que chacun ait son taf et qu'après, ça tombe juste.
C'est plombé, c'est-à-dire
plombé, étiqueté, plombé par l'Office national des forêts. On met des étiquettes.
C'est pour la traçabilité des graines.
Voilà, pour la traçabilité et le transport aussi. Les plans correspondent à un certificat de provenance qui est détenu par le transporteur au cas où il y a un contrôle de douane ou de police.
Et sur l'étiquette, ce sera marqué quoi alors?
L'étiquette, on aura Pinus pinaster, un numéro de certificat de provenance, une région de provenance.
C'est donc la traçabilité qui va suivre la graine toute sa vie.
Oui, jusqu'au plan de plantation. Le pépiniériste sera contrôlé avec son certificat de provenance. Alors, je vais voir plus loin, mais je pense que... Les lignes ne sont pas finies, elles sont à reprendre ici, un peu plus tard.
Et vous aimez ce moment-là?
Ah oui, c'est agréable. Conduire un engin comme ça, on n'a pas souvent l'occasion. Je pourrais pas me l'offrir. Surtout dans les dunes. Se promener dans les dunes, c'est complètement interdit tant qu'on n'est pas professionnel.
Regarde, ils sont énormes. Ça, c'est vraiment, ça fait partie des plus gros cônes qu'on puisse ramasser. Ça. Presque 20 cm de long. Et au poids, ouais, j'exagère, tu sais, je disais 500 grammes, mais non, c'est quand même lourd. Quoi. C'est joli. Et puis agressif, je sais pas si tu vois l'agressivité qu'il a. C'est cueillir à main nue, ça fait mal.
Donc vous les cueillez vert?
Ouais, mûr. Et ils s'ouvrent au printemps avec la chaleur. Donc nous on les ramasse avant pour que la graine soit dedans.
Exactement, ça là on va en parler. Devant nous, vous pouvez nous décrire ce qu'on voit?
Donc voilà, là on arrive donc en milieu de chantier, donc les sacs commencent à sortir un peu de la forêt. Donc les gars débarrent les sacs au fur et à mesure. Donc là ils sont ficelés, il doit y en avoir à peu près une centaine.
Alors est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui va arriver à un de ces sacs?
Donc les sacs vont être rapatriés donc chez nous, à la sécherie donc de la Ménitrée, dans le Maine-et-Loire. Pour ouvrir, pour en extraire la graine, il faut sécher les cônes. Donc une fois les cônes ouverts, les graines sont extraites donc par tout un process industriel. La graine donc subira un pré-traitement au froid pour ce qu'on appelle lever les dormances. Donc les levées de dormance, donc c'est la dormance d'une graine, c'est toutes les barrières qui l'empêchent de germer au mauvais moment, on va dire naturellement, une graine qui va tomber au mois de juillet, qui va être à maturité au mois de juillet, a des barrières chimiques qui vont l'empêcher de germer à un moment qui n'est pas propice. Donc il va lui faire passer l'hiver. Donc ces levées de dormance, c'est des quantités de froid et d'humidité pour préparer la semence à germer une fois rendue chez le pépiniériste. Donc ils sont nos principaux clients, hein, les professionnels, et donc ils vont élever les plants sur 2 ans à peu près et qui seront replantés en forêt.
Pour en revenir à l'itinéraire de la graine, ça lui prend combien de temps donc de sa récolte à son retour chez les pépiniéristes?
Grosso modo un an et demi à 2 ans. Ça va Rémi, t'as passé une bonne journée? Pas trop dur?
Non, parfait. Non, c'était bien. La pluie nous a pas gênés. Et puis, il y avait un peu, ça va, les arbres étaient pas terribles, mais bon, dans l'ensemble, ça allait quand même.
C'est compliqué cette année. J'ai fait le tour un peu tout le monde. Là, c'est pas simple.
Oui. Ah oui, par rapport à l'an dernier, c'est un peu la misère. Ouais. Il y a une espèce de petite bestiole. On sait pas c'est quoi, hein, c'est ça?
Ouais. On est toujours à se poser la question.
Une petite bestiole qui s'attaque au cônelet. Parce que le pin maritime, il lui faut 2 ans pour faire un cône. Donc là, on voit déjà au bout des branches des tout petits cônes qui vont grossir l'année prochaine et qu'on va récolter l'hiver prochain, normalement, si tout se passe bien. Le problème, c'est qu'il y en a plein qui vont être attaqués, il va se passer un truc et ils ne vont pas se développer.
Qu'est-ce que tu veux monter encore?
Oui, je peux faire celui-là. Il est joli.
Ouais. Ah bah oui, c'est joli, il ne faut pas se priver. Ouais.
Bien formé et tout.
Ouais.
Pour la génétique, oui, c'est intéressant.
C'est pas mal, ouais.
Celui-là était joli. Hein. Ben, quand ils sont bien droits, avec des branches régulières, bien fléchées. Par rapport à ça, ça ressemble à un lance-pierre. Quoi.
Ouais, ça...
ça ressemble à rien. Quoi. Ça, je grimpe pas. Ça.
Et vous, André Sel?
Oui.
C'est vous le docteur des arbres?
Non, je suis d'ailleurs, non. Je suis chirurgien arboricole, c'est un terme que certains emploient. Du moment qu'on fait une bouture et qu'on greffe un arbre, on est chirurgien. Hein. Ça veut rien dire. Hein. C'est facile. Hein.
Mais est-ce que vous pouvez nous dire comment vont les arbres du verger Saint-Augustin?
Oui, ils sont pas mal. Hein. On voit quelques chancres. On voit, qu'est-ce qu'on voit? Quelques chenilles, pas énormément. Très peu, des chenilles processionnaires. On voit une couleur de résine sur les arbres parfois. Ça, c'est un chancre. C'est le chancre, en général, c'est un champignon ou une bactérie qui attaque le bois et qui... Alors le bois se défend en faisant de la résine. La résine, c'est une défense contre toutes sortes de parasites.
J'ai lu quelque part que le pin était timide.
Oui, ça veut dire qu'ils ne se touchent pas, qu'ils ne se rendent pas les uns dans les autres. Enfin, pas tous. Hein. Je viens d'en faire un, il était quand même bien chez le voisin. Il y en a un, là, vous voyez, il est chez le voisin. Il y va. Il faut à tout prix accéder à la lumière. Mais c'est vrai que les arbres ne se touchent pas trop. Surtout en vieillissant. quand ils seront plus vieux, ils sont. Si on allait vous aller voir des arbres dans la dune là-bas, vous verriez. Les arbres, ils se touchent pas, ouais. C'est vrai. Là, ils sont encore jeunes. Hein. Ils ont quoi? Ils ont 30 ans.
Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas bosser?
Non, c'est bon. Je sais pas.
Elle lui tombe.
Elle lui tombe, ouais.
T'as escaladé combien d'arbres?
Ce matin, j'en ai fait 20. Cet après-midi, je sais pas. J'ai pas compté cet après-midi.
Oui, ça va. Aujourd'hui, ça a été. On n'a pas été trop embêté par la pluie, en fait. Hein. Oui,
oui. Crachant du lundi matin.
Ils ont séché, même. T'as vu, à un moment, les arbres, là, ils sont pratiquement secs en haut.
C'est de la thalasso.
Oui.
Ensuite.
Ils sont cool, les arbres.
Oui. Ils disent rien.
Moi non plus, je dis rien. D'ailleurs. Quand je suis dans les arbres, je dis rien. Ça, c'est clair.
On leur fait plein de choses, mais ils disent rien.
Il y a quelques arbres, quand même, dont je me souviens. Que le premier arbre duquel j'ai vu l'océan, par exemple.
Ouais, l'océan, le marais,
l'océan,
là-bas.
L'océan, le côté. Marais, ouais. Ouais. Le phare de la Coubre.
Oui, le sémaphore.
Ouais. Ouais.
Et des pins.
Des pins.
Et la dune parfois. Et la dune au bord de l'océan.
Ouais.
Rémi Carité, là on est loin de la forêt primaire. Hein.
Ouais. Et c'est sûr que là le verger qui vient d'être fraîchement débroussaillé pour qu'on puisse mettre les cônes par terre et ramasser facilement. Hein, c'est l'engin qu'on entend tourner là-bas au loin. Et c'est sûr que oui, le paysage est un peu désolé. Hein. Bon, il reste toujours une petite part de. Quand même de sauvagerie dans chaque arbre, hein, je crois. Même si c'est des arbres vraiment sélectionnés, resélectionnés. Enfin, il y a un peu moins de poésie dans cet environnement que quand j'ai commencé, où on était dans des vraies forêts. Les forêts dans lesquelles on a commencé, enfin j'ai commencé les récoltes, c'était des forêts qui avaient été classées par l'ONF. C'était les plus beaux arbres, donc c'était souvent des arbres déjà assez âgés. Vraiment très grand. Alors il y avait un vrai danger à les escalader et on était sous-équipés. À l'époque on parlait pas de sécurité ou très peu, donc on avait un équipement vraiment minimal et on se débrouillait, on s'est formé sur le tas comme ça avec Bernard, avec Hugues, tu vois. Alors c'est sûr que je pense qu'évidemment c'est là où j'ai pris goût à ce métier. C'est vrai que on n'est plus du tout dans la. On ne fait plus de bivouac ou très peu, on n'est plus du tout dans cette dynamique comme ça de jeu et de plaisir de l'escalade et aussi comment dire, la vie en groupe en forêt, voilà, loin de tout, les bringues en forêt, etc. Bon oui, c'est sûr qu'on a fait des grosses fêtes et qu'on a passé beaucoup de vraiment de très bons moments après une bonne journée de travail.
Et comme vous en parlez, on a presque l'impression que c'est un loisir pour vous.
Ah oui. Oui, je suis assez critiqué là-dessus d'ailleurs, par mes collègues. Mais oui, moi je trouve qu'il y a du plaisir à faire ce travail, vraiment. Bon, moi je suis pas. Je suis pas forestier à temps plein. Donc.
Vous faites quoi d'autre?
Photographie, littérature, enfin écriture. J'ai relier mes deux passions, de la photographie et de la forêt. Et dans ce métier, on passe son temps la tête en l'air. Et quelquefois même, ça fait mal, cervical. Mais peut-être simplement lever la tête. Je me demande finalement si c'est quelque chose qu'on n'a pas un petit peu oublié aussi. Mais c'est vrai que là, c'est intéressant de se mettre en dessous et puis de le regarder. Comme ça, là, à cette heure-ci, c'est en train de bouger tranquillement. Bon, il y a un petit peu de pluie qui tombe en même temps, c'est pas mal. Les odeurs aussi. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ici, c'est pas trop prononcé, enfin, quand même. Les écorces, les aiguilles, elles ont un petit parfum particulier. Alors, dans le Douglas, là, c'est vraiment extraordinaire. Très, très parfumé. La résine aussi, du cèdre, les sapins, etc. À chaque fois, il y a des odeurs particulières qui sont liées à la saison, qui sont liées au terrain, à l'humus, etc. Et puis j'aime bien aussi le fait de revenir à quelque chose de vraiment primaire. On parlait des forêts primaires tout à l'heure, mais bon, là on est un peu des sages dans une forêt qui n'est pas primaire. Mais ce qu'on fait, c'est une gestuelle très, très animale.
Là, on fait des rangées de 10 par 5 rangées, ce qui fait 50. Non, ça fait des paquets de 50, ce qui est plus facile à compter. Et avec une séparation au milieu pour pouvoir plomber et mettre les étiquettes. Et le camion se charge à la main, comme avant. Ça fait, je pense qu'ils font 20-30 kilos, entre 20 et 30 kilos. Avant, on faisait des sacs de 100 litres, ce qui est interdit maintenant. C'était trop lourd. Pour les normes de... C'est 25 kilos, je crois, les normes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ce qui fait 9 hectos. Parce qu'on compte toujours en hectolitres. De sacs, ça fait un hectolitre.
Donc là, on se retrouve devant une masse d'une centaine de sacs. Et comment on peut savoir que André, vos sacs sont là? Vous pouvez très bien piquer.
Ah, ça y est, c'est fait. C'est tout mélangé là. Il n'y a plus moyen de savoir qui est à qui.
Attends, il n'y a pas les mêmes ficelles qui ferment.
Moi, j'ai mis des oranges, oui, parce que j'avais de la ficelle orange. Voilà, il y a confiance avec tout le monde, quoi. Ça, c'est Julien.
Il apporte ses sacs.
Tu vides tes sacs? Tu débardes avec ta voiture?
Ouais, j'en ai pris 3.
Ah, d'accord. Voilà, je vais garer le 4x4 ici. Ouais.
Le 4x4 encore?
C'est fini, j'ai fini.
Ok, super. Ça tombe bien, ouais, je vais le prendre, je vais aller récupérer mes sacs.
Arrive chez Rémi et Fabrice dans leur gîte et tout le monde se retrouve. Beaucoup de guitares, mais pas beaucoup de guitaristes, nous a dit Rémi. C'est ce qu'on va voir.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous de l'Est.
Hop. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
C'est bien d'avoir
merci.
André,
c'est le moyen.
Ouais.
Il est grappeur.
Ouais, c'est le doyen des grappeurs.
Combien de saisons?
Ça fait déjà 2 ans qu'il dit ça.
2 ans,
ça fait
15 ans que j'entends. Ça fait 20 ans, oui.
C'est ma dernière saison.
Non, mais deux ans, il en parle de plus en plus.
Mais des fois, il est presque poignant parce qu'il est là dans sa ligne, en bas d'un arbre, il dit mais c'est peut-être mon dernier maritime. Tu vois, avant 10 fois une seconde, mais quand même.
C'est le dernier, c'est sûr.
C'est le dernier, c'est sûr.
C'est un tankeur, on l'arrête pas en 3 km. Hein. C'est
un tankeur, on va quand même, prétentieux. Allez, santé. Allez, à tous.
Il est poignant.
Karim et compagnie, ils arrivent.
Bernard Jacot. J'habite à Rosay, un petit village de Haute-Saône.
Et c'est votre 35e année dans les arbres.
Ouais. J'ai découvert ça en faisant mes papiers pour la retraite. Ils veulent mes trimestres et tout. Et j'ai commencé en 81. Et j'y suis encore.
Et alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui est plaisant? Parce qu'il fait froid, c'est acrobatique.
Ah, il y a tout, hein. Ce qui est plaisant? On est bien là-haut, hein. Ah non, les pins, là, ça va. Ça traîne pas, quoi. Ouais, j'aurais passé ma vie, hein. Le sol est vite là aussi, hein. Sans les vergers, au début, j'ai dit que je n'irai jamais là-dedans. Et puis, ben, je ne fais plus que ça. Voilà. Il faut faire de la pâte à papier. Hein.
Vous dormez où?
Dans mon camion, là. Ouais. Le groupe, Lundi matin, je veux pas aller voir. Non, je préfère mon café pédard tout seul. Je me lève le matin, là, je dis rien, je me rends, je vais déjeuner dans le verger. Le jour se lève, je suis là, je suis Fabien.
Il ne faut pas qu'on vous emmerde, en fait.
Non.
Et votre famille, alors, comment elle vit ça?
Oh bah non, il n'y a plus de famille. Hein. J'ai un peu tout loupé, quoi.
Comme un saltimbanque.
Ah ouais. Ouais, ouais. Je suis content de partir au boulot, quoi. Alors j'oublie un peu tout le reste, quoi. Et là, bon, bah, ça va, quoi. Des soirées avec toute la bande. Ouais. On se lâche un peu, quoi. Beaucoup même.
Bah, j'ai pas le temps de rien faire. Ah ouais.
Moi, tu vas pas faire ça à ton âge, tu vas pas quand même faire le ménage, quoi.
On voit le hein? Petit
ravel.
Ah ouais. Petite con.
C'était ça, c'est.
Et derrière nous, s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on pende. Reste on the road again. Dans les blés mûrs, il y a des fleurs sauvages. On ne pense plus, on est de passage. On the road again, again. On the road again, complètement bien. On the road again.
Nous étions jeunes et larges d'épaule, bandits joyeux, insolents et ronds. On attendait que l'âme en nous front.
Dans ma ligne. Je vais essayer d'aller doucement. J'ai le dos un peu coincé le matin. J'ai les vertèbres foutues et une discusée. Il faudra bientôt un ambulateur pour arriver au pied de mon arbre.
Striptease.
Ouais, je transpire un peu sous les bras là. Ça, c'est une veste de peintre.
Qui était blanche.
Ouais, j'étais peintre avant.
Ah ouais?
Ouais, sur une corde. Je peignais des HLM. Je lui fais plein. Ah, j'aurais passé ma vie au bout d'une corde. Sérieux, hein? Le danger, on s'en approche, mais bon. Faut pas dépasser trop la bordure. J'ai eu de la chance, mon ami. Plein. On sautait d'arbre en arbre. On n'était même pas attaché. On ne plus faire ça.
Pour ramasser?
Ouais. Les grands sapins, on les tirait, on les balançait comme ça. On lâchait là, on attrapait là, puis on partait dans le sapin. Ah, 35-40 mètres, là.
Comme Tarzan.
Un peu. Mais on n'avait pas jeune.
Est-ce que faire ce métier, ça vous a empêché d'être borderline?
Ah, peut-être, ouais, ça va.
Ouais. Ce serait vraiment agréable.
T'as commencé ?
J'ai fait 2 arbres.
Bien.
5.
Ah oui. Ah ben, ouais, ça fait
le minimum.
Ouais, ouais.
Pas le minimum vieil, c'est le minimum grimpeur.
Et l'autre ?
L'autre, 15. Mmh. Et où j'ai mis les échelles, il y en a là-haut.
D'accord. Bon, on y retourne alors.
Tout le monde est là ?
Bon, ouais. Ouais, tout à l'heure.
Ouais.
On n'oublie pas, on lâche rien.
Et dites-moi, André Sel, quand le chantier va se terminer, qu'est-ce qui va se passer pour vous ?
Je rentre chez moi et je fais des chantiers d'élagage en espace vert, chez des particuliers, des communes. Voilà. Et après, c'est un peu plus calme au mois de juin, juillet.
Et vous retrouvez une famille ou...
Oui, bien sûr. Voilà. Ma famille, les enfants, la routine tous les jours.
Vous êtes un peu content finalement de vous en éloigner de temps en temps. Vous pouvez nous le dire à nous.
Ah oui, oui, tout à fait, ouais. Tout à fait, tout le monde est content que je quitte un peu la famille, qu'on se sépare un peu. Et puis c'est toujours bien de venir au bord de l'océan, quand on habite le Massif Central.
Vous changez de conversation là.
Non. non, la famille, il n'y a pas de souci. Ça se passe très bien. J'ai des enfants qui sont grands. Donc. Ça se passe bien.
Mais quand ils étaient petits et que vous voyez pas...
Je restais moins longtemps en récolte. Je repartais au bout de 10 jours. Et je revenais après, un petit peu plus tard. J'en faisais moins, quoi. Voilà. J'en fais plus maintenant.
Et comment vous êtes perçu par les proches ou par les amis ou par la société? Votre confrérie de grimpeurs dans les arbres?
Ah, par les gens. Il y a des gens qui prennent pas ça au sérieux. Il y en a d'autres qui trouvent ça très bien. Il y en a certains qui trouvent ça un boulot difficile, quoi. Il y en a d'autres, ils trouvent que si c'est des écologistes, ils trouvent aucun intérêt à faire ça, quoi. Alors qu'on peut très bien faire de la forêt en régénération naturelle. Ouais, il y a tous les avis, hein. Alors, il y en a qui ne prennent pas ça au sérieux. Ils croient que c'était un métier qui était fait par les agriculteurs avant et qui était ramassé sur coupe, qui était très très peu payé, quoi, après la guerre. Il a fallu beaucoup de plans et ils ramassaient du tout venant, ils ramassaient n'importe où, quoi. Et c'était très peu payé. Alors il y a des gens, ils croient qu'on est payé encore comme dans les années 50. Bon, ils grimpaient pas. Dans le Jura, ils ont commencé à grimper assez tôt. Je pense après la guerre, ça a commencé, ouais. Mais ils n'avaient pas les moyens que nous, on avait. Ceinture en cuir, une chaîne et des échelles. Et il y avait des accidents. Après, je sais pas si ce métier durera longtemps.
Non. Pourquoi ?
Ben, si ils arrivent à trouver la division cellulaire... de la bouture, une façon de faire des boutures, de multiplier végétativement ou par cellule, ils n'auront plus besoin de graines. Mais ça ne marche pas. Encore. Il faut partir d'une graine, quoi. C'est sûr qu'en partant d'une bouture, ça va beaucoup plus vite. Au lieu de faire sur 30 ans, ça durerait... la récolte serait sur 15 ans.
Là, j'ai faim en fait. Je suis descendu de mon arbre pour ramasser mes cônes, manger un petit truc.
Je me demandais, Karim Beka, perché en haut des arbres, dans votre forêt, protégé de la société, est-ce que la forêt fait écran, assouplie un petit peu?
Ah oui, la forêt, elle permet de. J'habite dans le Morvan, c'est... on peut très vite sortir du monde. J'ai pas la télé, j'ai internet. Quand on grimpe là, j'ai l'impression que tout le monde met son ego de côté, quoi. On est là, on a enfilé du grimpeur et tout ça, on est au boulot, mais je pense que ça calme. Quand on arrive ici, là, les cacous, ils ont vite fait de se calmer, quoi. C'est un travail qui calme énormément. On a une dépense d'énergie constante sur toute la journée et un cacou, il peut pas le faire longtemps ici, quoi. Donc ici, les égos, non, il n'y a pas de problème d'égo, quoi. On revient à quelque chose de sain, quoi. On arrive à vivre entre bonhommes, sans agressivité, sans violence, sans vouloir prendre le dessus, forcément. Bon, après, il y a toujours un espèce de petit classement par rapport au volume de graines cueillies, mais ça, c'est plutôt pour la profession, quoi. C'est bon pour nous, quoi. Ça nous tire vers le haut. Et quand je vais rentrer chez moi, je vais prendre un peu de vacances et peut-être...
être choqué par l'état encore de notre société, quoi. Je sais pas, je vais relire les infos, tout ça, je vais...
Sur le retour en famille ?
Ouais, bah le retour en famille, j'attends que ça un petit peu, là. C'est un peu difficile de partir 2, 3, 4 semaines. Moi, j'ai des enfants, et... Bah, ça permet de relativiser aussi, quand on est là, on se dit qu'on peut se retirer un petit peu de tout ça, quoi. De tous ces médias, quoi. Voilà.
On vous laisse le casse-croûte, là. C'est l'heure du casse-croûte. Et vous allez manger quoi ? Vous carburez à quoi, vous ?
Ah, moi, je carbure à la clémentine. Ça laisse des traces dans les lignes. Comme ça, je reconnais mes lignes. Les autres aussi reconnaissent mes lignes, du coup. Et un peu à tout, quoi. Beaucoup de fruits, beaucoup d'eau aussi. Hein. Pas trop de café. Je bois plus de café. Pas d'excitant, en fait. Non. Alors, j'en étais où ?
Je me perds rarement en forêt, mais la meilleure moyen de se perdre, c'est effectivement d'être distrait une demi-seconde et de faire un demi-tour comme ça. Et là, après, on ne sait plus où on est. Ça m'est arrivé une fois avec un oiseau qui m'a vraiment surpris. Et je me suis perdu. J'étais désorienté, je ne savais plus par où j'étais venu et où je devais aller. Puis je vois Claude là-bas, donc c'est bon. La sortie, elle est là.
J'ai écrit un livre qui s'appelle « Les vertiges de la forêt ». Et vous dites notamment, j'ai écrit ce livre pour que la voix des arbres soit entendue. Moi, j'aimerais savoir ce qu'ils disent, les arbres. C'est le moment de le dire.
Ce que disent les arbres, c'est ce que dit la nature. C'est que j'ai été long à le comprendre. Parce qu'au début, quand j'ai commencé ce métier, bon, je constatais que j'étais vraiment en pleine forme à la fin d'une saison. Alors qu'on travaille, c'est un travail physique, c'est quand même assez dur, hein, le corps est sollicité. Mais j'en revenais toujours en pleine forme. Et au départ, je pensais, bon bah oui, j'ai gagné de l'argent, et puis j'ai fait de l'exercice, donc c'est normal, je suis en forme, etc. Bon, et c'était ça. Hein. Mais pas seulement, parce que je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort et plus profond, c'est que peut-être en forêt, on est vraiment dans un univers où on est connecté justement à une énergie voilà, de la terre, une énergie des plantes qui est bonne pour nous. Et du coup, c'est vrai que pour nous, bah, ça nous donne... hier, quelqu'un disait, on est comme sur une île. C'est un peu, tu vois... Donc c'est aussi quelque chose qui relève du voyage. Hein. On est en train de voyager, là. On avance lentement, mais on fait tous les sommets. C'est déjà pas mal.
Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote du citronnier dépressif que vous avez rencontré un jour dans vos périples ?
Oui, dépressif, le citronnier qui poussait dans mon jardin quand je vivais en Côte d'Ivoire. Il était fatigué et un jour il est redevenu superbe, plein de feuilles, et puis il s'est couvert de fruits. Et à ce moment-là, j'avais invité des amis pour une fête. J'ai eu l'idée d'offrir des citrons, parce que j'avais vraiment une profusion de citrons. J'ai tout ramassé, voilà. J'en ai pas laissé un seul sur l'arbre. Et curieusement, 3 mois plus tard, il était mort. On sait qu'un arbre donne plus de fruits, et donc de graines, quand il est stressé ou quand il est malade, quand il est attaqué. Donc ça pouvait être une réaction comme ça d'un arbre qui sent qu'il est en fin de vie et qui donne beaucoup de fruits. Mais moi, je me suis posé aussi la question de savoir si, bon, finalement, dans l'espèce de relation que j'avais établie avec cet arbre, il n'y avait pas eu, finalement, comme une trahison, où, tu vois, je l'avais dépouillé. Je sais pas. Alors, c'est prêté peut-être à l'arbre plus de sensibilité qu'il n'en a, mais en tout cas, bon, la question, je me la pose. Je me dis, tiens, c'est bizarre, je lui ai pris tous ces citrons et il a disparu comme ça.
Vous parlez aux arbres des fois, André ?
Oui, quand il y a du vent, je leur demande pas trop bouger.
Vous pouvez monter avec un vent qui souffle jusqu'à combien ?
70. 70, on s'arrête en général. Des rafales, il peut faire des rafales à 70, 100. Mais là, on arrête, ouais, en général, on arrête. Et souvent ici, quand il y a des vents, il pleut en même temps, alors. Donc ça devient impossible.
Juste une petite confidence sur le bout de la route. On a beaucoup apprécié la soirée d'hier, mais on s'est demandé si... tous ces hommes qui sont là, est-ce que vous n'êtes pas des gens qui, à un moment donné de votre vie, vous êtes un petit peu cachés pour panser vos plaies ?
Ah oui, peut-être, ouais.
Ouais. C'est vrai que ça m'a. De faire ça, ça m'a un tournant dans la vie, quoi. J'en ai marre de mon boulot en espace vert. Et je voulais faire autre chose. Et grimper dans les arbres, c'est une évasion, ouais, tout à fait. Comme on dit, peut-être qu'on trouvera une porte un jour, en haut. C'est une formule qu'on sort des moments. Ouais, c'est vrai, ouais. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui bossaient pas dans la forêt avant, qui sont là, quoi. Ils ont tout changé.
Et ceux qui sont venus donc se réparer en quelque sorte, est-ce que ça fonctionne ?
Oh, je pense, oui. Je pense. Oui, ils sont. On les voit, ils ont la banane, comme on dit. Si. Ceux qui n'y arrivent pas, ben ils restent pas. Ils voient que c'est pas pour eux, quoi. Ça se voit tout de suite. Ouais. Puis vous intégrer dans une équipe de vieux grimpeurs, c'est pas évident, c'est vrai. Surtout quand on sait pas. Les gars, ils arrivent. C'est midi, est-ce qu'on s'arrête ? Bah, tu fais ce que tu veux. Et ça, les gens ne comprennent pas quand ils ont eu l'habitude d'avoir des horaires bien précis, une organisation avec un chef, avec toute une structure, quoi. Et là, c'est une sorte d'anarchie qui marche bien, quoi. Une liberté en respectant les autres. Et aussi les arbres, et aussi les propriétaires d'ici, et tout ça, quoi. Moi, je dis, planter des arbres, c'est être immortel. On peut le dire comme ça, quoi. Voilà. Puis vous pouvez relire Jean Giono, l'homme qui plantait des arbres. C'est la nouvelle, qui est intéressante. À partir d'une graine. Rémi.
On va voir Rémi, il casse la croûte, je crois.
Ouais.
Allez, c'est parti.
Nous étions jeunes et larges d'épaules. On attendait que la mort nous frôle. Elle nous a pris les beaux et les drôles.
On the road again, again. On the road again, again. Ami, sais-tu que les mots d'amour.
Une bande de cueilleurs-récolteurs avec Rémi Carité, Bernard Jacot, Fabrice Touron, Karim Beka, André Sell, Pierre-Louis Luquet de la société Ville Morin. Le livre de Rémi Carité, Les Vertiges de la Forêt, est publié aux éditions Transboréal. Attachée d'émission, Christine Bernard, Alison Sénard. Coordination, Irène Omelianenko. Prise de son, Yvan Turc. Un documentaire de Véronique Macari et Vincent Deck pour Sur les Docks.